ça, c'est une autre, encore de la musique enregistrée autour de Johannesburg dans un township qui s'appelle Small Farm. Et puis, bon, on est toujours en compagnie de François Lécuyer, qui est chargé de projet pour Alternative et qui connaît très bien l'Afrique du Sud pour y avoir séjourné pendant quelque chose comme 3 ans. Alors, on va continuer de parler de la situation en Afrique du Sud. Puis tout à l'heure, on va essayer de rejoindre Pushani Nadu, qui est en Afrique du Sud et qui, bon, on va l'appeler, il va être peut-être 11h minuit là-bas, mais on va essayer d'avoir un écho de sa part pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour elle aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passe ces jours-ci avec les mouvements, entre autres l'Anti-Eviction Forum. François, une des questions dont, à laquelle je pense en écoutant le reportage, c'est à la fin, on écoute Heinrich qui parle en fait bon qu'il ne faut pas avoir un secrétaire général et que les organisations sont différentes de celles qu'il y avait par le passé. Ben, évidemment, il parle des organisations de gauche qui étaient très influencées par le marxisme-léninisme dans le passé. Comment est-ce qu'on place l'ANC par rapport à ça? Est-ce que l'ANC, c'est tous d'anciens marxistes qui sont aujourd'hui au pouvoir, réformistes?
Si on, je veux dire, toute cette question de privatisation des services publics et des sociétés d'État en général répondait à un besoin essentiel pour l'ANC. L'ANC, en fait, tout le background théorique de l'ANC était fourni par le SACP, le South African Communist Party, le Parti communiste d'Afrique du Sud, qui, eux, suivaient les lignes de Lénine de façon très assidue. Eux disaient que le capitalisme en Afrique du Sud était tronqué, le capitalisme n'était pas un État pur parce qu'il était accompagné de toute cette répression politique qui était l'apartheid. Donc, on ne peut pas passer à l'étape socialiste, dire qu'il faut aller jusqu'au bout du système capitaliste. Et ça passait par quoi? Ça passait par la prise de contrôle par les classes noires de l'économie sud-africaine. Et ça voulait dire quoi, principalement? Ça voulait dire il nous faut une bourgeoisie noire qui va prendre le contrôle de l'économie. Par contre, l'ANC avait un gros problème. Les Blancs, la constitution qui a été négociée avant la fin de l'apartheid, en 1993, il y a eu une constitution qui a été négociée avec le Parti nationaliste qui était au pouvoir durant l'apartheid, qui, Mandela a accepté que toute la notion de propriété privée allait être enchâssée dans la constitution de post-apartheid, qui est encore, même s'il y a eu des changements constitutionnels en 1996, propriété privée est encore respectée. Donc, ça rendait impossible toute forme d'expropriation ou de nationalisation, notamment du système bancaire, du système minier, que l'ANC voulait nationaliser au début des années 80. Alors, si les Blancs, si on ne peut pas exproprier les Blancs, si les Blancs ne sont pas intéressés à vendre leur richesse, qu'est-ce que les Noirs vont acheter afin de créer une bourgeoisie noire?
Mais il y en a une bourgeoisie noire.
Elle a été créée comment? Je veux dire, oui, il y a une très infime minorité de bourgeoisie noire dont Mandela est un symbole. Mandela, c'est un aristocrate, c'est un roi, c'est un fils de roi. Mais, toute la notion de privatisation des sociétés d'État répond à un besoin, celle de favoriser la création, l'émergence d'une bourgeoisie noire. C'est comme si l'ANC s'est dit, bon, mais s'il n'y a rien à acheter, qu'est-ce qu'on va vendre à cette nouvelle bourgeoisie en émergence? Mais on va vendre les sociétés d'État. Cette deuxième étape après la création d'une bourgeoisie noire a évidemment été rejetée aux oubliettes par l'ANC depuis que la droite a pris le contrôle de l'ANC. Mais l'ANC était très, très orthodoxe, comme le Parti communiste sud-africain qui est en alliance avec l'ANC, comme les syndicats. Pour eux, la lutte sociale se passe au niveau de l'emploi ou... Donc, c'est assez déprimant à ce niveau-là, oui.
Oui. En fait, tout ça me fait penser aussi à la relation qu'il existe entre capitalisme et apartheid, ou entre capitalisme et, les régimes qu'il y a eu avant en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs personnes en Afrique du Sud qui disaient, ouais, c'est une question que beaucoup de monde s'est posée. Toi, quelle réponse tu y donnes? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une Afrique du Sud en proie à un capitalisme sauvage. Je ne sais pas comment l'appeler. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pauvres, des très pauvres, et il y a une classe de plus en plus riche, de noirs, qui s'acoquinent avec les anciens grands propriétaires blancs qui étaient là et qui faisaient en sorte que l'apartheid existait. Alors on se demande, est-ce que vraiment ce sont les Noirs qui ont vaincu l'apartheid ou les Blancs qui on leur ont laissé parce qu'ils se disaient, ben ça nous fait plus peur.
Tout à fait. Il y a un très bon film. Il y a un très bon film qui a été produit par des amis à moi à New York, qui s'appelle The Fourth World War, par le collectif Big Noise Films, où il y a ce type de Cape Town qui revient tout le temps avec cette phrase South Africa is a farm. et puis il explique à quel point, à un moment donné, je veux dire, oui, il y a eu un moment donné les tenants radicaux, racistes, fascistes du Parti nationaliste se sont accrochés à leur pouvoir et à ce régime d'apartheid qui était horrible. Par contre, à un moment donné, même ce régime d'apartheid-là était rejeté par les plus grands bénéficiaires historiques de l'apartheid, qui sont les grandes compagnies minières sud-africaines. Anglo-American, De Beers, Billiton, qui sont parmi les 10 plus grandes compagnies minières du monde. Eux-mêmes, à partir de 84-86 surtout, ont commencé les discussions avec l'ANC afin, je veux dire, les contradictions structurelles de l'économie sud-africaine, comme je l'ai mentionné précédemment, étaient tellement grande qu'il n'y avait plus aucune croissance, il n'y avait plus aucun débouché, il n'y avait plus aucune avenue, aucun futur pour l'économie sud-africaine. Les grands propriétaires terriens, les grands propriétaires miniers, surtout se rendant compte de ça, ils ont dit bon, mais il faut mettre fin à l'apartheid, on va commencer les discussions avec l'ANC. Et c'est là que ce noir de Cape Town qui disait South Africa is a farm disait qu'à un moment donné, ben, les grands capitaux internationaux sont venus voir l'ANC, ils l'ont dit, ce que Do you want to manage my business? Est-ce que vous voulez prendre charge de notre business? Et les gens de l'ANC lui ont répondu, ben votre business c'est quoi? Et les grands capitalistes lui ont répondu, ben l'Afrique du Sud. Et oui, non, je veux dire, il y a eu une étape cruciale où les grands capitalistes internationaux se sont rendus compte que l'ANC était aussi bon que n'importe qui pour gérer ce pays-là, en autant qu'ils appliquaient les bonnes mesures du néolibéralisme des années 90, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le régime de l'ANC. Maintenant, ce qui est dommage, c'est, je veux dire, on est en 94, était une époque charnière où on devait mettre fin à plus de 400 ans d'exploitation coloniale, de ségrégation raciale et d'exploitation capitaliste basée sur une ségrégation qui était basée sur la race. Et maintenant, ce que nous dit Thabo Mbeki, la droite au sein de l'ANC, c'est que le secteur privé va être meilleur que n'importe qui pour enlever ces inégalités historiques-là en fonction des inégalités croissantes, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis entre 95 et 2000, les revenus des familles noires ont diminué de 20%, alors que le revenu des familles blanches ont augmenté de 15%. Alors, non seulement on n'a pas arrêté, les inégalités n'ont pas diminué, elles se sont accrues. Je me demande très sérieusement, et plusieurs personnes se le demandent, est-ce que c'est pas une conséquence directe des politiques néolibérales qui ont été mises en place depuis 96?
Mais est-ce qu'il faut s'arrêter juste jeter des pierres à l'ANC ou quand même est-ce qu'on peut lui offrir quelques fleurs?
Faut pas offrir des fleurs à l'ANC, faut offrir des fleurs à un mouvement de libération nationale qui était beaucoup plus large que l'ANC. L'ANC a réussi très bien à capturer ce mouvement de libération nationale. Par contre, quand on voyait en 1976 des étudiants de 13, 14 ans aller se faire tirer à bout portant par des forces de répression fascistes, pour moi, c'est pas l'ANC. L'ANC a très bien capturé, ils ont hijacké, ils ont détourner cette lutte de libération nationale-là. Par contre, le fait que cette lutte de libération nationale-là ait gagné les élections démocratiques de 94, ait gagné l'avènement d'une démocratie multiraciale, ça, je pense que personne ne va remettre ça en question. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est de, un, est-ce que c'est vraiment la victoire de l'ANC ou celle d'un mouvement de mars qui était très fort? Et de deux, oui, reconnaître les acquis qui ont eu lieu. Tout le monde a le droit de vote, tout le monde a la liberté de mouvement. Officiellement, plus personne n'a le droit d'être dénigré par sa race, ce qui n'est pas du tout le cas en pratique. Je veux dire, les bonnes, c'est encore des Noirs, puis les riches, c'est encore des Blancs, avec une petite minorité, oui, de nouveau. nouveaux arrivistes businessmen qui riches et noirs qui sont la plupart du temps très près de l'ANC ou souvent carrément d'anciens ministres. On a vu régulièrement le ministre des télécommunications devenir le lendemain le plus riche propriétaire de télécommunications au pays, ou le pire que j'ai vu, c'était des anciens ministres de l'énergie ou des mines qui, du jour au lendemain, parce qu'ils quittent leur poste de ministère, 6 mois plus tard, deviennent les plus gros propriétaires miniers noirs sud-africains parce qu'ils ont bénéficié des subventions du gouvernement.
Mmh. Et bon, on va aller peut-être plus pour parler des mouvements. Il y a des mouvements dont on a parlé, l'Anti-Privatization Forum, Anti-Eviction Campaign, ils sont principalement dans les grandes villes. Il y a aussi le Landless People's Movement. Et justement, ben, une nouvelle qu'on a reçue ce matin, c'est qu'il y a eu une grande arrestation. Et ça, c'est arrivé à Cape Town, si je me trompe pas?
Non, c'est arrivé à Timberley, qui est
C'est pas en banlieue de Cape Town, ça?
Non, Timberley, okay. C'est en banlieue de Johannesburg, à 30 km au sud de Johannesburg. C'est un immense bidonville qui avait une population d'environ 35 000 habitants, installé là depuis environ 25 ans, qui a été rasé bizarrement 2 mois avant le sommet de la Terre qui avait lieu à Johannesburg en 2002. Ces équipes d'éviction professionnelle, de paramilitaires modernes urbains qui sont rentrés un matin à Timberley pour sacrer tout le monde dehors. Le gouvernement voulait les déplacer à 50 km encore plus au sud de la ville, plus loin de Johannesburg, là où sont les emplois. Non. Les différents mouvements sociaux avaient une... Bon, il n'y a pas une gauche organisée. Il n'y a pas de parti politique de gauche qui ont été mis sur pied afin de canaliser tout cet esprit de résistance que les mouvements sociaux, depuis 1999-2000, ont effectué. Par contre, les différents mouvements sociaux sud-africains, forme anti-privatisation, la campagne anti-éviction, le mouvement des sans-terres, ont différentes stratégies. La stratégie la plus radicale, tous ces mouvements demandent à leurs militants de boycotter les élections. Pas de terre, mais pas de vote, pas de logement social, pas de vote, pas d'eau potable, pas de vote. C'est la position commune à tout le monde. Le mouvement des sans-terres, le LPM, avait été un peu plus loin en demandant aux populations de ne même pas s'inscrire dans le registre des votes. Ils ont tenu ce matin une manifestation, pas de terre, pas de vote, pour critiquer les élections, et 60 militants du mouvement des sans-terres ont été arrêtés pour regroupement illégal selon la loi électorale qui dit que tu n'as pas le droit de faire un regroupement juste devant un bureau de vote. Ils étaient environ à 2 km du bureau de vote le plus près, et ils avaient reçu la permission de tenir une manifestation pacifique à Timberley, se sont fait arrêter par une vraiment bizarre interprétation de la loi électorale, bizarre interprétation de la loi qui est utilisée régulièrement par l'ANC, par les forces de police, afin de criminaliser, afin de réprimer, afin de bannir toute forme de contestation sociale contre les politiques de l'ANC. Oui. C'est régulier.
Oui. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'on est avec François Lécuyer. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3, et on parle de l'Afrique du Sud dans le cadre de cette émission spéciale. Alors, on écoute de la musique qui nous vient du collectif Cape of Good Dope, de l'excellent label African Dope, et ça nous a été amené par François ici. Alors, on va revenir dans les 5 minutes qui restent. On va parler encore une fois de ces élections qui sont en Afrique du Sud. En fait, on n'en a pas tellement parlé. François, ben, l'ANC va sans doute remporter les élections aujourd'hui. La seule question, c'est avec quelle marge ils vont remporter ces élections-là. L'ANC a tendance à s'acoquiner avec toutes sortes de différents partis, entre autres avec des partis de droite, et on en a parlé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, là, de ce que l'ANC est aujourd'hui?
Pour moi, pour expliquer aux auditeurs, il y a une seule élection unique en Afrique du Sud qui va nommer les gouvernements provinciaux, les gouvernements provinciaux, le gouvernement national et le président. Il y a 9 provinces en Afrique du Sud, donc il y a en ce moment... Pour moi, la question n'est pas tant la marge de la victoire de l'ANC. L'ANC va gagner avec entre 60 et 75%, probablement autour de 68-70% du vote. Par contre, il y a deux grandes questions. Premièrement, il y a 2 provinces où on a remarqué aujourd'hui un taux de vote très grand. 2 provinces qui sont pas sûres d'être à l'ANC, la province du KwaZulu-Natal dans la région d'Urban et la province du Western Cape, la région de Cape Town. On a vu que pour gagner ces 2 provinces-là, dans le passé, l'ANC s'était mis en alliance avec n'importe qui. C'était mis avec le parti de Linkata, afin de gagner le KwaZulu-Natal.
Le parti des Zoulous.
C'est une analyse très naïve et très courte, n'est-ce pas, Roberto? Okay. Mais oui, on peut résumer ça à ça. Le parti des Zoulous de Mangosuthu Buthelezi, qui est très droite, très nationaliste africain, mais très à droite. Mm-hmm. Et dans le Western Cape, la province de Cape Town, il s'était mis dans le passé en alliance avec le nouveau parti nationaliste, je mets nouveau entre guillemets, qui est l'ancien parti nationaliste, celui qui est au pouvoir sous l'apartheid entre 48 et 94. Afin de contrôler les 9 provinces, dont ces 2 provinces les plus critiques. Deuxième problème, c'est quel va être le taux de participation aux élections. On a vu dans les élections de 94 et 99 des taux très élevés entre 89 et 92% des élections. Aujourd'hui, est-ce que les gens vont sortir massivement ou est-ce que les gens vont rester à la maison afin de protester le fait qu'il n'y a aucune alternative démocratique socialiste au gouvernement de l'ANC et le fait que, voter pour l'ANC, qu'est-ce que ça nous donne finalement? Finalement, si l'ANC n'est pas capable de créer des emplois et n'est pas capable de donner du service essentiel aux populations.
D'accord. François, malheureusement, on n'a plus le temps. Alors, merci beaucoup d'être venu ici à l'émission avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Malheureusement, comme vous avez pu vous en apercevoir, on n'a pas réussi à rejoindre Prishani Nadu à Johannesburg. Il semble que ça a été trop difficile au niveau des communications, au niveau de la ligne. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. C'était une émission spéciale qui remplaçait le Planète Montréal du mercredi 14 avril. Je vous signale juste comme ça rapidement qu'il y a une des grosses manifs aujourd'hui un peu partout au Québec, entre autres dans le centre-ville de Montréal. Donc, si ça vous tente d'y aller, allez-y. Dans le coin de l'Université McGill, rue McGill?
La rue McGill.
Oui, rue McGill. Donc, c'est ça. Alors, revenez-nous à Planète Internationale vendredi. C'est mon autre émission.
Radio Centre-Ville, 5 FM, 102,3. La radio...